L'Église est capable d'avoir des belles paroles, de beaux actes, des beaux gestes par rapport à des personnes pauvres, par rapport à des personnes handicapées ou qui viennent d'ailleurs. Pour l'instant, elle a encore bien du mal à avoir une réelle fraternité par rapport aux personnes qu'elle a écrasées.
Cet homme, qui parle d'une voix remplie d'émotion des décennies après les faits, a été abusé par un prêtre quand il était jeune. Ils sont des milliers dans ce cas en France, d'après la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique. La CIAZ, c'est comme cela qu'on l'appelle, rendra ses conclusions tant attendues ce mardi 5 octobre. Créée en 2018, après la révélation de plusieurs scandales, elle a été mandatée par la Conférence des évêques de France pour recenser toutes les victimes d'actes pédocriminels au sein de l'Église depuis 1950. Plus de 3000 victimes ont témoigné. À 48 heures de la publication de ce rapport, nous nous pencherons dans cette émission sur ce mouvement de libération de la parole. Comment recueillir ces mots longtemps retenus? Est-ce que témoigner peut aider à se réparer?
On propose un écoute, on propose ensuite une thérapie. Et c'est là où on fait un travail d'abord avec ses culpabilités, parce que beaucoup de victimes pensent qu'ils sont en partie responsables.
Nous nous intéresserons aussi à un aspect moins médiatisé, le suivi des hommes d'église, auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs. Comment les traiter et les mettre hors d'état de nuire? Quelles conséquences canoniques et judiciaires en courent-ils?
Quoi qu'il arrive, il faut signaler au procureur. Trop souvent, on a entendu « mais de toute façon, c'est prescrit ». Non, il ne nous appartient pas de dire que les choses sont prescrites ou pas, cela n'appartient qu'au procureur.
Enfin, nous avons pu nous rendre au séminaire d'Orléans à la rencontre d'aspirants prêtres. Nous nous demanderons comment détecter les déviances et prévenir la pédocriminalité. Abus sexuels dans l'Église, le clergé face à son passé, c'est un reportage de Jérôme Jadot.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes François ?
Oui.
Enchanté, Jérôme Jadot.
Bonjour.
France Inter. Bon, ça va ?
Ça va ?
Ouais.
En fait, on va dire que j'arrive au bout d'une démarche. Hein ? Il reste quelques heures à faire.
C'est la première fois que vous allez raconter ce qui vous est arrivé ?
Aussi précisément ? Ben oui, bien sûr.
Vous êtes venu avec une petite pochette ?
Ah, j'ai plein de choses. Non, j'ai pris un tube de Lexomil.
Nous sommes au parc des expositions de Dijon où la CIAZ fait étape aujourd'hui. La commission chargée de faire la lumière sur les abus sexuels dans l'Église a reçu plus de 3000 témoignages de victimes. Elle en a auditionné plus de 200 à huis clos. François, 72 ans, a été agressé sexuellement quand il était adolescent.
Fouiller les 70 années passées, dresser une liste chiffrée des abus, violences, viols commis depuis les années 50 dans l'Église, ça n'a jamais été fait, c'était demandé expressément par les victimes.
Le travail est monumental. La commission va rechercher tous les cas d'abus depuis 1950. Elle creusera à partir d'articles de presse, d'entretiens avec les victimes et membres de l'Église et aura un accès illimité aux archives des diocèses et ordres religieux.
Avec un préalable non négociable, l'Église n'interviendra pas, même si c'est elle qui finance tout.
On vous retrouve à la sortie de cette audition, François. Vous avez besoin de vous asseoir, là.
Ah oui, ah, j'en peux plus, là. C'est comme si j'avais fait 1000 bornes. Je suis fatigué. Épuisé. Vidé. C'était le but, d'ailleurs. Il fallait se vider.
C'était éprouvant.
Oui, oui. Oui, parce que là, j'ai été jusqu'au bout de la vérité, ou on va dire ma vérité en tout cas. Voilà, jusqu'au bout avec moult et moult détails, précisions, etc.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Je suis relativement apaisé, oui. On avait dit, passer devant la commission SIAZ, enfin c'était un aboutissement. Si je vous disais que c'est un début, ça vient de me donner un espace psychique ou un espace intellectuel pour pouvoir profiter après d'aller à la rencontre des autres, de retrouver les anciens copains qui certainement sont passés à la moulinette. C'est un grand mot, mais de leur faire profiter de mon expérience et surtout de leur dire qu'il faut qu'ils suivent le même chemin et que ça va leur faire le plus grand bien. Oh, j'avais amené des photos, des machins, des trucs.
Vous avez quoi comme photo ?
Photo de scout. Voilà, ça c'est moi.
Quel âge vous avez ?
Là, j'ai 13 ans.
Donc c'est un camp scout ?
Oui. Et soit c'est l'homme malveillant. Un colosse. 1m90, 110 kilos à peu près, à 28 ans.
C'est l'aumônier qui a abusé de vous.
Voilà.
On le voit, c'est sur un camp là, c'est dans la montagne, dans les Pyrénées ?
C'est dans les Pyrénées, oui.
C'est compliqué de le revoir ?
Non. Non, c'est qu'une photo.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les faits que vous êtes venu rapporter ?
On n'ira pas dans tous les détails. Je viens de le faire. C'est épuisant. Mais les faits, c'est un aumônier. En avril 1960, je suis rentré dans la troupe de scouts de la Réal, à Perpignan.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 12 ans. C'était l'époque où je revenais de Madagascar. J'avais passé 3 ans là-bas. Se retrouver dans un appartement à Perpignan, c'était dur. Et ma mère a considéré que c'était une bonne chose que de rentrer dans le mouvement scout. Mon père étant parti en Algérie à la guerre, elle avait raison de faire ça. Le seul problème, c'est qu'il y avait un aumônier qui avait des visées particulières sur les jeunes enfants un peu perdus. Des victimes potentielles, dont je faisais partie. C'est un homme qui m'a d'abord et surtout, et en fait surtout c'est ce qui est assez, je trouve, particulier, c'est que pendant 2 ans, il m'a traumatisé intellectuellement et psychiquement en me culpabilisant, en disant que j'avais honte, en disant que j'étais anormal.
Pourquoi est-ce qu'il vous disait que vous étiez anormal ?
De se masturber, oh là là, c'était terrible ça. Il fallait... D'ailleurs, j'aurais jamais d'enfant parce que j'étais un grand malade. Et au bout de 2 ans, une fois qu'il a senti que le fruit était mûr, il m'a dit, écoute, il y a peut-être une solution pour te guérir. Je connais un docteur qui peut te soigner. Il dit, je ne sais pas exactement ce que c'est, une petite opération bénigne. Il m'a dit, ou alors j'ai une autre solution. Je vais m'en occuper. J'ai une combine, tu penses à rien, et c'est moi qui m'en occupe. Je sortais de chez lui, j'étais écroulé, je pleurais, j'étais mort de honte. Merci, parce que ça a duré ma vie entière. Le mensonge, ma vie entière aussi. Et il a réussi à retourner cette affaire en sa faveur, entre parenthèses. Voilà.
C'est-à-dire que ça a débouché sur des attouchements ?
Bien sûr. Bien sûr.
Est-ce qu'à l'époque, vous avez pu en parler à quelqu'un ?
Non. C'est non.
La première fois que vous l'évoquez avec un tiers ?
Il y a quelques années. Puis ça passe très vite. On met 2 phrases et ça y est. On s'arrête là.
Comment est-ce que vous avez vécu avec ça pendant quasiment toute votre vie ?
Bon, je le mets dans un coin de sa tête, et puis on le vit très mal tout au long de sa vie. Non, on ne guérit pas, non ? si je n'avais pas rencontré cet homme, je me serais dirigé autrement, c'est-à-dire que dans ma tête, j'aurais fonctionné différemment. J'aurais été certainement beaucoup plus heureux. C'est très dangereux de vivre comme ça. C'est épuisant. Comme on est coupable, on est toujours coupable. Comme on a toujours honte, alors on montre un autre visage. C'est la culpabilité et la honte permanente. Il a détruit votre personnalité pour en reconstruire une autre. C'était son but.
Ces années, ces décennies de vie gâchée, elles ont frappé ceux qui viennent en aide aux victimes de pédocriminalité dans l'Église. Dans le diocèse de Montpellier, une cellule d'écoute a été mise en place dès 2016. Ce sont des professionnels qui prennent directement les appels, dont Wayne Botkin, il est diacre et psychothérapeute.
On propose une écoute, on propose ensuite une thérapie. Est-ce que c'est quelque chose qui va amener une thérapie familiale? Je pense à une victime qui a été violée par un prêtre quand il avait 12 ans. Il n'a rien dit. Et en l'écoutant, j'ai aperçu qu'il y a une problématique dans la famille, avec son épouse et avec ses enfants adolescents. Et donc, j'ai proposé, on peut faire quelque chose aussi avec la famille. Oui, mais ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui va se passer s'ils sont au courant? Qu'est-ce qu'il va penser à moi? Et c'est là où on fait un travail d'abord avec ses culpabilités, parce que beaucoup des victimes pensent qu'ils sont en partie responsables pour les choses qui arrivaient. Parce que quand quelqu'un est agressé, c'est mécanique. On sait bien que si on stimule un pénis, ça va devenir en érection. Mais c'est mécanique. C'est pas un choix de la personne. Mais la problématique, c'est dans nos cerveaux, ça envoie un signal qui dise plaisir. Et c'est là la confusion qui arrive pour la victime. Et donc, il faut qu'on aide de déculpabiliser. Et donc, on dit très clairement, vous êtes pour rien, pour rien. Ensuite, avec ce monsieur, de parler, de dire, c'est OK de parler avec la famille, parce que ça les aide. Et qu'est-ce qui se passe? Il a donné son accord. Et les gens, mais c'est pour ça, papa, son fils. Tu me donnes jamais un bisou, tu me donnes jamais un câlin. Et donc, ils ont commencé un travail pour lui de devenir le père qu'il voulait faire, mais qu'il n'osait pas. On peut qu'il va refaire ce qui est arrivé à lui. Et on voit bien que, comme quelque chose qui n'était pas dit, c'était un secret, en silence, a eu un impact sur cette famille pendant des années et des années. Et nous, on est brisé cette silence. On est aussi aidé, je pense, un petit peu, cette famille de réunir et de fonctionner comme ils souhaitaient en tant que famille.
Si notre désir est de comprendre les raisons qui ont pu permettre que cela ait pu avoir lieu, nous ne cherchons en rien à la justifier.
Le président de la Conférence des évêques de France a fait le mea culpa de l'Église.
Même si nous savons que ce drame des enfants abusés dans notre société déborde amplement la responsabilité d'acteurs ecclésiaux, cela ne diminue en rien notre peine, notre honte, notre confusion.
Nous sommes de retour à Dijon où la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, organise également une réunion publique. C'est en plus des auditions à huis clos. Les victimes, leurs proches sont invités à prendre la parole. Il y a dans la salle une quinzaine de personnes et autant en visioconférence.
Vous voulez bien... Pardon, merci de le dire. Merci. C'est bon ? Oui. Si vous voulez bien reprendre un peu, s'il vous plaît.
Oui, je disais, je voulais juste reprendre une chose que vous veniez de dire à propos de la manière dont les choses se sont passées. J'ai été reçu par l'évêque du département où les faits se sont passés. Je veux dire, concrètement, en tant que... Bon, j'ai été victime, vous l'avez compris. Je raconte mon histoire. J'essaye de dire quel impact ça a été sur ma vie. Et, mais j'ai jamais eu de retour. J'ai dû même relancer le diocèse du département où j'étais reçu pour dire où on en est. Je veux dire, à quoi ça sert une commission pour qu'on vous dise pas oui, vous avez été une victime, oui, l'Église a ses torts. En ce qui concerne mon état d'esprit, moi je vais vous lire une citation, elle n'est pas de moi bien sûr, elle est de Jeanne Moreau. La vie, c'est ce qui vous arrive lorsque vous étiez en train de prévoir autre chose. Voilà ce qui m'est arrivé. J'avais 6 ans. Il m'est arrivé autre chose que ce que je devrais être.
Merci beaucoup de ce témoignage et d'avoir pris la parole ce soir.
Je m'appelle Jean-Yves, j'ai 62 ans, donc ça fait environ 55 ans que je vis ça, quoi. C'était clairement du viol, il y avait pénétration. J'avais 7 ans maximum, on va dire. Ça, je le sais. Je sais que ça a duré des mois. Il y a eu des choses très vraies qui ont été dites ce soir, notamment sur le... J'oublie tout pour me protéger, et puis qu'à un moment donné, il y a tout qui remonte à la surface. Moi, c'était terrible parce que c'est remonté à la surface quand j'ai revu le même prêtre, celui qui m'a agressé, avec un moum. Petit bisou sur la bouche, quoi. Et c'est là où... en fait, c'est plusieurs traumatismes. C'est un traumatisme parce que on a été agressé. Deuxième traumatisme, on voit ça, on se dit, putain, j'ai rien dit pendant 30 ans. Donc, combien ils sont passés? Le prêtre en question, il est mort en début 2019. J'ai été à son enterrement parce que pour moi, c'était... J'avais réglé mes comptes avec lui. J'étais dans le presbytère, il était en retraite. Parce que comme je n'avais pas de réponse de l'Église, je n'avais pas de réponse de la justice, je n'avais pas de réponse de la presse aussi. À un moment donné, j'étais chez lui avec un revolver. Un revolver en plastique, hein, un jouet. Et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et je lui ai demandé combien de victimes tu as fait. La réponse, pas des kilos.
Pas des kilos.
Pas des kilos, ouais. Quand j'ai été à son enterrement, c'était pour voir qu'effectivement, il était entre... Entre ces 6 planches qu'on n'en parlait plus. Quand j'ai vu son cercueil, l'église pleine, et puis 20 prêtres autour, en train de faire son éloge, et puis le pire, c'est que celui qui dirigeait la cérémonie, c'était l'ex-vicaire général de l'évêque, qui était parfaitement au courant, parce que je l'avais eu au téléphone. C'est lui que j'ai eu au téléphone quand, des années avant, j'ai dit, attention, il y a un problème, quoi. Et c'est le même évêque qui fait un article dans le bulletin paroissial où il parle du prêtre en question, notamment en louant son engagement vis-à-vis des enfants. Je lui ai dit, mais putain, vous saviez que c'était un pédophile? Et vous vous permettez de dire ça? Vous l'avez dit à l'église, vous l'écrivez sur le bulletin? Il lui dit, oui, mais c'était quand même un homme bon.
L'ecclésiastique qui a fait cet éloge funèbre, c'est Robert Marshall. Il était vicaire épiscopal à Nancy en 1995, quand Jean-Yves lui a rapporté le viol qu'il a subi 30 ans plus tôt. Nous avons pu joindre Monseigneur Robert Marshall.
J'ai dû aller voir le Roger, je pense. J'avoue que je n'ai pas un souvenir exact de l'échange. Il a dû connaître un peu les faits, je ne sais pas trop. Et il a, à ce moment-là, il a dit je ferai une démarche auprès de la famille, tout ça. Ce qu'il a dû faire, je crois.
Mais il n'y a pas eu de sanctions, vous ne l'avez pas éloigné, notamment d'éventuels autres enfants.
Il était curé de paroisse. Bon.
On peut être amené à être en contact avec des enfants.
Sans doute, comme tout curé de paroisse, oui, je pense, oui. Alors bon, on ne peut pas dire qu'il y en a des tonnes dans les paroisses aujourd'hui, hein, les gosses. Je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais bon, je ne dis pas que je plaide coupable, mais si, parce que bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les consignes n'étaient pas si claires que ça, les consignes arrivent après l'an 2000. Hein.
Il y avait une particularité quand même avec le père Roger, c'est qu'il était tuteur de deux autres enfants.
Pas tuteur, il les a adoptés.
Il les a adoptés ensuite, ouais. Et là, vous n'êtes pas dit, il y a peut-être danger?
Mais là, ils sont clairement adultes à ce moment-là. C'est des gars qui ont déjà 25-30 ans. Hein. Peut-être que la seule chose que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'était de rencontrer la justice. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas pensé que je cachais vraiment les choses. Voilà. Puis maintenant, bah, je suis en retraite de 75 ans, donc je suis plus en responsabilité, donc tout va bien. C'est plus à moi de gérer ces trucs-là.
Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien certains, peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera.
Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites?
Oui, non,
grâce à Dieu, je vais dire heureusement.
Merci de m'avoir repris, oui. Oui, je vous remercie.
Ces propos peuvent paraître choquants. Ils montrent l'incroyable légèreté dont a fait preuve le clergé face aux accusations d'agression sexuelle sur mineurs au sein de l'Église. Aujourd'hui, l'institution a pris la mesure du problème. C'est en tout cas l'avis de Thibaut Verny, évêque auxiliaire à Paris. Le diocèse de Paris est souvent cité en exemple pour son dispositif de signalement des auteurs d'agression.
On a eu une période où on avait quasiment un signalement par semaine de faits anciens, donc pendant l'effet rattrapage, puisqu'il y a eu... Il faut voir un peu la succession qu'il y a eu, le rapport des États-Unis, le rapport d'Allemagne, la lettre au peuple de Dieu du pape, puis le procès du cardinal Barbarin, l'amplification de l'association La Parole Libérée, le film Grâce à Dieu. Donc tout cela a contribué à cet effet rattrapage qu'on a connu en 2018-2019.
Et sur la dernière période, est-ce que, je sais pas, sur la dernière année ou les deux dernières années?
Alors, sur la dernière période... Force est de constater qu'on a moins de signalements. Mais on en a toujours. À la fois pour des cas anciens, mais aussi pour des cas récents. Et c'est important de le dire et de ne pas baisser la vigilance. Dans ce dispositif et dans l'accueil des témoignages, une étape importante a été le protocole que nous avons signé avec le parquet de Paris. Quoi qu'il arrive, il faut signaler au procureur. Trop souvent, on a entendu « mais de toute façon, c'est prescrit ». Non. Il ne nous appartient pas de dire que les choses sont prescrites ou pas, cela n'appartient qu'au procureur. Et donc, même les cas anciens sont remontés auprès du parquet.
La Conférence des évêques de France a décidé de son côté de verser une contribution financière aux victimes. Les premiers versements doivent intervenir en 2022. Les associations auraient préféré le terme d'indemnisation qui induit la réparation d'un traumatisme subi. Autre avancée qui concerne cette fois-ci les auteurs d'agressions, les prêtres ayant des penchants pédophiles ne sont plus simplement déplacés dans un autre diocèse. Ils sont de plus en plus souvent suivis et orientés vers une prise en charge médico-psychologique, comme ici au CHU de Montpellier où l'on retrouve Jérôme Jadot.
Interception sur France Inter.
Nous arrivons dans le service du docteur Mathieu Lacambre, psychiatre au CHU de Montpellier. Parmi ses patients et ceux de son équipe, des hommes pédophiles, passés ou non à l'acte. Les quelques hommes d'église suivis ici n'ont pas accepté la présence de notre micro. Mais pour comprendre comment se passe leur prise en charge, nous allons quand même assister à une consultation. Bonjour. Avec un patient. Bonjour. Qui n'est pas religieux.
Ah oui, pardon. Vous ne pouvez pas faire, moi, ça. Vous ne savez pas faire. C'est trop vite. Je vous en prie, installez-vous. On va refaire un petit peu le point, si vous voulez bien. Vous aviez rencontré... La psychologue, je crois,
oui,
aujourd'hui,
oui,
en plus,
oui.
Vous l'avez vu.
Voilà. Comme je disais au docteur Tellard, ça a été un peu compliqué quand même. Ça a été un peu dur à gérer, quoi.
Voilà. Donc, quel point de vue, alors?
Bah, ça a été un peu les montagnes russes, quoi. Donc,
ah bon?
Ouais. C'est... Malheureusement, assez souvent, je repars sur Internet et sur les chats.
Si on devait essayer de répartir la proportion entre les fantasmes pédophiles qui concernent des enfants et des fantasmes qui concernent des adultes. Le ratio entre en pourcentage, 30-70, 50-50?
Non, c'est plutôt 80 enfants et 20 adultes.
Hein. Ok. Ouais. En termes maintenant, le fantasme, donc on est sur un contenu purement imaginaire, en termes de désir d'avoir un contact sexuel, pareil, le ratio entre enfants et adultes.
C'est le même.
D'accord, donc vous désirez avoir des contacts sexuels physiques avec des enfants?
Oui et non. Comme je vous dis, je passerai pas à l'acte, c'est ça, ça j'en suis persuadé, je suis sûr de moi là-dessus. Mais aller essayer de voir des images, oui, ou des vidéos, oui, ça oui.
Mathieu Lacombe, vous êtes psychiatre hospitalier, vous suivez de nombreux patients ayant une attirance sexuelle pédophile, dont des membres du clergé. Y a-t-il à vos yeux des conditions spécifiques dans l'Église qui favorisent la survenance d'actes pédocriminels, de violences sexuelles sur mineurs?
Alors, il y a, d'un point de vue à la fois même théorique et pratique, probablement plusieurs facteurs qui vont favoriser la réalisation de ces violences sexuelles. Mais quand je parle de facteurs favorisants, ça peut devenir des facteurs de risque, comme dans la société civile, c'est-à-dire dans l'éducation nationale, à certains autres endroits, avec malgré tout des petites spécificités dans l'Église au regard du cadre qui est proposé. Je m'explique. L'Église, c'est une grande famille, une paroisse, on est accueilli au sein d'une communauté, et on a un père, alors en plus c'est notre père, et on a des frères, des sœurs, et on est dans un amour fraternel. Et on a pu observer qu'un certain nombre de victimes avaient été une première fois abusées, et qui au moment de l'adolescence, s'interrogeant dans une quête de sens et spirituel, vont se tourner vers l'Église. Et on a observé plusieurs situations, en particulier de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes, qui ont tenter de réparer cette blessure de leur famille, de l'inceste ou d'autres violences sexuelles de proches, dans un engagement spirituel auprès de l'Église et de cette communauté paroissiale. Avec quelque chose de relativement horrible, c'est qu'au moment de la confession, lorsqu'ils allaient confesser les violences sexuelles, un certain nombre de prêtres ont pu identifier qu'elles avaient déjà été victimes. Et je vais utiliser une image horrible, mais c'est un peu comme si on avait déjà fracturé le coffre-fort. Et pour ces prêtres, ils vont du coup profiter de l'occasion, comme le coffre était déjà ouvert, pour engager une relation intime d'abord, de confiance, qui va être le socle pour enfermer la victime dans le secret et agir ensuite des comportements sexuels inappropriés. Et c'est au sein de l'Église que vont se rejouer ces violences dans un modèle finalement d'une famille, d'une néo-famille et du coup d'un néo-inceste. Et ça ressemble assez, sur le plan à la fois anthropologique et clinique, à ce qui se joue dans l'inceste, avec des blessures extrêmement profondes, une destruction de l'intimité, de l'accès à la vie affective et sexuelle de ces sujets qui étaient en quête d'une réparation. C'est une catastrophe. Ça a été, sur le plan clinique, toujours une catastrophe.
Est-ce que le vœu de chasteté peut aussi être un facteur à vos yeux?
Alors, un des risques, c'est que des sujets s'engagent dans le séminaire en pensant régler définitivement la question de leur propre sexualité avec un vœu, le vœu de chasteté. Or, l'interprétation même pour des hommes d'église varie. Le vœu d'abstinence, qu'est-ce que ça signifie? Avec des hommes d'église qui arrivent à sublimer, mais au sens psychologique du terme, la question de la sexualité, de la génitalité dans des relations spirituelles. Mais tout le monde n'y arrive pas. Et ceux qui sont rattrapés par une érection, qui sont rattrapés par un fantasme, par une excitation, ne sont pas toujours en capacité de le gérer correctement lorsqu'ils ont fait le vœu de chasteté. Et donc ça les met en difficulté, ça les met parfois en culpabilité. Avec, j'ai vu des situations où certains hommes venaient se mutiler au niveau de la verge ou se flageller, mais toujours dans le respect des valeurs de l'Église, main guillemets, sur des choses qui sont parfois un peu archaïques. Et bien que rattrapé, bien que puni ou autopuni, une fois autopuni, en disant, comme je me suis puni, peut-être je peux m'autoriser. Catastrophe. Et en utilisant même les référentiels de l'Église avec des victimes, on a des histoires comme ça, des situations où le prêtre disait à la victime, mais tu sais, c'est moi qui irai en enfer. Donc, c'est mon contrat avec Satan, le diable, etc. Et je fais œuvre de rédemption, mais on peut s'autoriser ça. C'est horrible. Donc c'est autant de moyens que de justifier un comportement et une conduite. Donc est-ce que le vœu de chasteté en soi permet de régler le problème de la sexualité? Sûrement pas. Est-ce que le vœu de chasteté peut dans certaines situations être un facteur de risque? C'est possible lorsqu'on l'a mal compris, lorsqu'on l'a mal identifié et lorsqu'on lui donne une valeur trop importante qui ne vienne pas régler ses conflits intrapsychiques.
Alors pour aider l'Église, en l'occurrence les évêques, à prendre les bonnes décisions sur le sort des prêtres mis en cause pour violences sexuelles, une commission indépendante, autre que la CIAZ, a été mise en place dès 2016. Une commission composée de juristes, de psychiatres. Elle est présidée par l'ancien haut fonctionnaire Alain Christnart.
Oui, là je viens de recevoir un dossier de l'évêque de Poitiers, de Périgueux. Voilà.
Donc il m'écrit, il me transmet une lettre de Rome, il me transmet un jugement. Et donc nous on va approfondir tout ça, on va aller plus loin que le jugement. Et d'ici trois semaines, un mois, on répondra. On n'applique pas une grille d'analyse automatique, ce qui serait ridicule. On étudie le dossier, on fait donc une estimation du risque de récidive et on en tire des conclusions, qui sont une recommandation. Après, l'évêque fait ce qu'il veut. Alors, quelle conclusion ? Ça dépend évidemment de la gravité des faits et de ce risque de récidive. Donc ça peut être, par exemple, ne pas avoir de contact dans sa mission avec des mineurs. Mais il faut bien voir, évidemment, que des mineurs, il y en a partout. Et on n'est pas dans une société fermée. Donc ça entraîne des affectations très limitées et pas faciles à trouver dans les petits diocèses, du genre poste administratif dans les archives ou aumônier de maison de retraite, encore qu'on peut dire que dans les maisons de retraite, les petits-enfants viennent visiter. Mais enfin, bon, le risque, évidemment, est moindre. Le deuxième élément qui vient dans nos recommandations, systématiquement, ce sont les soins spécialisés. Je dis ça parce que, au fond, dans un premier temps, je crois que l'Église a eu comme réaction de dire on traite les affaires entre nous. C'est le grand malentendu, évidemment, et c'est ce que la SIAZ va mettre en lumière. Dans un deuxième temps, notamment à partir de 2000, c'est la pédophilie dans l'Église, c'est non seulement une faute morale, mais c'est une faute pénale, donc il faut saisir la justice nationale, et pas seulement la justice ecclésiastique. Mais ça encore, c'est insuffisant, parce que on a vu des cas, par exemple, où le prêtre avait été condamné avec sursis, où il y avait eu un classement sans suite, et alors l'évêque faisait le raisonnement suivant, finalement, la justice est passée, et donc maintenant je le réaffecte. Et pour éviter les récidives de comportement, il faut admettre, c'est un troisième niveau de conscience, que la pédophilie, c'est ce qu'on appelle une paraphilie, c'est une conduite anormale, c'est une forme de maladie, on peut dire, et donc il faut des soins. Alors, et puis il y a un troisième niveau qui nous paraît important, c'est que souvent, les auteurs de ce type d'agression sexuelle sont assez seuls psychologiquement, parce que leur comportement, bien sûr, il est caché, il n'y a aucun dialogue, ce sont des célibataires qui vivent enfermés sur eux-mêmes, et donc on suggère la désignation d'un prêtre ou d'un laïc référent qui soit en mesure d'accueillir les confidences et puis de veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux débordements. Alors, ça c'est, je dirais, la recommandation minimale pour des agressions qui n'ont pas été réitérées, qui n'ont pas présenté peut-être un caractère de gravité particulière. Dans d'autres cas, où souvent, alors il y a des condamnations pénales lourdes, là pour le coup, on recommande que la personne quitte l'Église, soit, comme on dit, privée de l'état clérical, ou avant on disait réduit à l'état de laïque. Alors, c'est pas toujours une solution très responsable, parce que l'auteur se retrouve seul, sans aucun garde-fou, et à ce moment-là, il peut y avoir un côté un peu Ponce-Pilate, c'est-à-dire, si récidive, il n'est plus prêtre, donc moi je m'en lave les mains. Alors qu'en fait, évidemment, il a été prêtre, et tout ça s'est développé pendant qu'il l'était.
Wayne Bodkin, vous êtes diacre ici à Montpellier, docteur en psychothérapie, spécialisé dans le suivi des violences sexuelles. Quelle aide, quel soutien vous pouvez apporter aux prêtres, aux hommes d'église que vous suivez en thérapie ?
D'abord, c'est un travail qui est toujours en équipe. Tout seul, non. Ça veut dire en parallèle avec un psychiatre, parce qu'il y a le côté médical, il peut avoir usage de médicaments pour réduire le libido, pour éviter que ça gratte en bas. Et il n'y a pas aussi le côté psychothérapeutique, où j'interviens. Et aussi, en échange, on parle ensemble. J'ai parlé avec un patient ce matin, qui est prêtre, et on est parlé des émotions. On a eu une conversation aussi sur la théologie. Je ne suis pas théologien, ce n'est pas mon domaine, mais si le Jésus était un homme, parce que c'est ça l'enseignement de l'Église catholique, à 100%, il est Dieu et il est homme. C'est un petit peu complexe, mais c'est ça la position. Donc, il a eu des érections, Jésus. Il a eu des éjaculations. Ah, non, si vous dites ça, non. Si on présente comme modèle un homme qui n'a pas de sexualité, ou qu'on gomme cette sexualité, comme modèle, c'est compliqué. Parce que chacun va avoir des sexualités. Parce qu'on est tous humains, quoi. Et je pense que le message de l'Église, pour trop longtemps, était très culpabilisateur, et très... c'est un péché. La masturbation, c'est un péché. Le sexe, c'est un péché, si c'est pas dans le contexte d'un mariage et dans le contexte de procréation.
Est-ce que vous avez pu voir des résultats sur les patients que vous suivez, les patients hommes d'église?
Oui, tout à fait. Sinon, j'arrête et je ne fais pas ce boulot. Heureusement d'ailleurs. Oui, j'ai vu un changement où on peut amener un changement d'attirance vers un enfant pour une attirance vers un adulte. Un jeune adulte, mais un adulte. Et ça change tout. Et aussi l'idée de consentement. L'idée de... C'est un choix libre de chacun. Et de parler de cette sexualité dans tous ces domaines. Et donc, c'est intéressant.
Au-delà de l'accompagnement des victimes et du suivi des auteurs, la question de la prévention est évidemment primordiale. Au séminaire d'Orléans, la pédocriminalité n'est pas taboue. Depuis une dizaine d'années, les futurs prêtres rencontrent systématiquement des psychologues. Charge à eux de détecter les profils à risque. Il y a quelques mois, une femme et un homme, abusés par des prêtres quand ils étaient enfants, sont venus témoigner devant les séminaristes. L'une de ces victimes s'appelle Michel. Malgré tout ce qu'il a vécu, il s'est lui-même engagé dans le clergé.
Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Illumine nos cœurs sur la route pour qu'ils te découvrent dans les Écritures et dans le pain partagé. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Seigneur, sois avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
Voilà, on peut commencer. Merci d'avoir convergé. Donc, je crois que ça va être important. Ce soir, on accueille Véronique. Et puis, la première partie, c'est plutôt Michel, qui est prêtre, qui va intervenir pour nous partager son histoire, son témoignage, sur le mode de son expérience.
Merci, Laurent. C'est un après-midi, c'est après la sieste. On devait aller se baigner à la rivière, le programme a été changé, j'avais pas entendu. Les enfants de mon équipe sont venus vers moi. Ils ont soulevé les draps. Je me suis retrouvé dans ma nudité. Et là, ils ont commencé à me battre. Le moniteur, le prêtre, était dans l'angle de la porte et regardait. Et devant la quinzaine d'enfants, devant mon frère, qui lui s'est caché sous un lit, il s'est jeté sur moi et il m'a violé devant 15 enfants. Et puis après, ça a duré, je dirais, pendant 4 longues semaines, il m'emmenait dans une pièce à part. Et là, il a continué, avec en mélangeant l'affection et la violence. L'Église est capable d'avoir des belles paroles, de beaux actes, des beaux gestes par rapport à des personnes pauvres, par rapport à des personnes handicapées, par rapport à des gens isolés ou qui viennent d'ailleurs. Pour l'instant, elle a encore bien du mal à avoir une réelle fraternité par rapport aux personnes qu'elle a écrasées. Je ne sais pas si je peux aller plus loin. Voilà, merci Laure.
Donc, pour l'instant, on va aller remettre tout ça dans les mains du Seigneur. Voilà, on y va.
Père Laurent Tourny, vous êtes le recteur de ce séminaire d'Orléans. Au-delà de ces échanges avec les personnes victimes, comment est-ce que se décline ce travail de prévention que vous faites avec les futurs prêtres ?
Alors, c'est tout un parcours assez pluridisciplinaire, justement. Et je crois que c'est aussi ça qui est important. Ça passe par une étude personnelle, avec des rencontres avec des psychologues, tout au long de la formation, ce qu'on appelle le parcours humanité. Et à partir de cette rencontre-là, ils peuvent reconnaître qu'ils ont eux-mêmes besoin d'un soin particulier qui se fera à ce moment-là en tête-à-tête dans un parcours d'aide. Ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, qui sera davantage communautaire, ce sera une réflexion avec des médecins, alors des médecins généralistes, des médecins psychologues, des médecins psychiatres, sur la sexualité, la dimension génitale, bien sûr, mais aussi la place qu'elle prend dans un parcours humain. Qu'est-ce que ça veut dire que constituer un couple ? Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre une sexualité dans un couple ? Et donc, de s'en abstenir. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'enfant ? Je vais peut-être vous décevoir et décevoir ceux qui vous écouteront, mais je ne pourrai jamais signer un certificat comme quoi telle personne qui sort d'ici n'est pas pédophile. C'est pas possible parce que une crise de ces actes-là peut survenir alors que la personne était dans une forme de latence. Et que elle connaîtra un développement de ses pulsions déviantes, peut-être dans 15 ans. Ne pouvant pas signer de papier, je ne suis pas quand même sans rien faire. Dans un séminaire, nous sommes 8 à vivre avec eux. Donc c'est 8 regards. Alors faut pas croire, on n'est pas dans une période bolchevique où tout le monde surveille tout le monde. Mais le fait de vivre ensemble, de manger ensemble, de prier ensemble, d'être en cours ensemble, voilà, on se découvre mutuellement et figurez-vous que les formateurs sont tout autant en observation que les séminaristes. Bon. Et nous avons même maintenant une cellule nationale avec des psychiatres et des psychologues vers qui nous pouvons envoyer un séminariste où les psychiatres sont au courant, le séminariste est au courant, l'évêque est au courant, celui qui envoie le recteur du séminaire est au courant, qu'il y aura un rapport qui sera donné. C'est-à-dire que le secret médical ne sera pas trahi, mais le rapport pourra prendre la formulation. Au vu de ce que nous avons constaté, cette personne a des incompatibilités psychiatriques avec la vocation presbytérale.
Alors moi, donc, je m'appelle Alexis. J'ai 32 ans, voilà, je suis originaire de l'Essonne, et donc je suis au séminaire, je suis en troisième année.
C'est un peu pesant de rentrer dans une institution qui est marquée très fortement par ces affaires de pédocriminalité.
Ça affecte forcément, parce que voilà, on est dans cette église-là, donc ça affecte. Et en même temps, bah, c'est un travail qui est long, qui est commencé, qui est dur. Qui, en tout cas, moi, je crois et je l'espère, si je suis prêtre un jour, être dans une institution qui soit pas débarrassée, parce qu'on n'est jamais, il l'a dit, le risque zéro n'existe pas. Dans toute institution, il y aura toujours des crimes, mais en tout cas, rompre ce silence qui a détruit énormément de personnes depuis de nombreuses années et qui fait mal à l'institution.
Est-ce que ça a pu un moment remettre en question votre volonté de vous engager ?
Alors, non. Non, non, ça n'a pas remis en question ma volonté de m'engager. Mais en tout cas, ça a le mérite, quand on rentre au séminaire, ça a le mérite de se poser des questions importantes, essentielles sur l'affectivité. Quel impact le célibat va avoir dans ma vie affective, etc. Donc l'importance de ne pas être seul. Et ici, voilà, on est quand même bien accompagné. Il y a un vrai travail qui est fait dans la vie humaine, dans la vie affective et dans l'accompagnement personnel. Mais moi, non, ça n'a pas remis en cause mon choix, mais en tout cas, ça a eu le mérite de me faire mal et donc de me poser des questions essentielles sur ma vie affective. Ouais. J'ai 32 ans, donc je connais aujourd'hui mon affectivité, mes besoins, etc. Non, enfin, pédophile, voilà, je crois pas qu'on devient pédophile du jour au lendemain. Mais en tout cas, trouver vraiment l'importance de trouver un équilibre pour qu'effectivement, le jour dans ma vie où je suis fatigué, où je suis épuisé, déjà, c'est éviter ça. Mais si ça arrive, comment je suis accompagné, vers qui je me tourne. Donc l'importance de garder du lien avec ses amis. Moi, dès que je peux, je vais voir mes amis, toujours boire un coup avec mes amis qui sont sur, je ne suis pas loin de Paris. Enfin voilà, ma famille, toujours garder du lien avec sa famille. C'est des choses qui sont importantes. Maintenant, après, non, je ne me suis pas dit, est-ce que j'ai peur de devenir pédophile? Est-ce que le célibat peut me faire devenir pédophile? Non. Moi, je me suis toujours dit, et je me le dis toujours aujourd'hui, si jamais un jour ça va plus et que ça entraîne chez moi des grandes fragilités, simplement j'arrêterai. Voilà. Si c'est trop dur pour moi, j'arrêterai.
Abus sexuel dans l'église, le clergé face à son passé, c'était un reportage de Jérôme Jadot, déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Prise de son signée Jérémy Thuil, Benjamin Thuot, Yves Lehors et Lucien Lefebvre. Jérôme Chélus a réalisé ce reportage, assisté de Martine Messonnier. Mixage, Philippe Thibault.